Chers amis, bonsoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce 21e épisode des lundis de Ruralitique, dédié à la jeunesse et dans la perspective de Ruralitique 2021 qui se tiendra les 24, 25 et 26 août prochains à Aurillac, sous le slogan Jeunesse rurale, avenir égal. Et nous avons l'honneur, le privilège et le plaisir d'accueillir ce soir Valérie Joussaume, autrice ou auteure de Plouc Pride, la fierté rurale, voilà, je le dis à chaque fois, je ne le dis pas parce qu'elle est là, mais qui est, de mon point de vue, le meilleur livre de développement territorial que j'ai lu depuis 10 ans. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais laisser Valérie nous expliquer pourquoi nous pouvons être fiers d'être ruraux et ruralement fiers. Donc, Valérie Joussaume, c'est à vous.
Merci Sébastien de me donner la parole ce soir pour vous présenter donc un petit peu mon livre, enfin en tout cas une partie. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'appelle la Plouc Pride. Donc ce livre, c'est un livre de prospective, c'est une réflexion prospective pour les territoires ruraux. Mon idée, c'était de construire un nouveau récit pour les campagnes et de participer à la construction, à la co-construction d'un récit pour un futur désirable, un récit qui serait distinct de l'effondrement, hein, puisque à partir du début des années 2010, s'est développée donc toute une approche sur les échecs de notre propre culture et son probable effondrement. Et donc mon idée était d'essayer de proposer un récit collectif, de participer à une réflexion collective pour peut-être pas éviter l'effondrement, en tout cas préparer autre chose. Donc ce livre, j'ai écrit entre 2015 et 2019. Il a été présenté à l'université en 2020. Enfin, il est paru tout début 2021. Donc entre-temps, il y a eu le Covid qui a eu un effet simplement d'accélérateur ou de mise en valeur de l'affaire, mais sur le fond, finalement, les tendances lourdes, elles étaient là. Plouc Pride, je vais partager l'idée en fait, c'est j'essayais de répondre à la question et maintenant on fait quoi? Souvent, moi j'ai fait beaucoup de conférences à partir de 2015 et la question au-delà de toutes les réflexions sur la ruralité, les services, le numérique, la protection du foncier et j'en passe, l'alimentation, il y avait un peu et maintenant on fait quoi? Tout le monde voit bien qu'on est dans un monde en changement, qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui s'est grippé dans notre modèle de développement. Et donc, c'était ça un peu la question. Et maintenant, on fait quoi? J'ai essayé de donner du sens au changement pour répondre à cette question. Alors, je vais partager un écran pour. Alors, un de mes dadas, hein, c'est j'ai un esprit de synthèse. Et du coup, alors, pourquoi ça ne marche pas? Il faut que j'avance comme ça. Voilà. J'ai un esprit de synthèse et j'aime beaucoup faire des approches très synthétiques qui permettent d'avoir une vision un peu large des choses. Alors évidemment, dans les 30 minutes imparties, il y aura sans doute des sensations de simplification, mais bon, l'idée de la synthèse est de pouvoir simplifier tout en être simple sans être simplé. Donc l'idée que je développe dans le bouquin, c'est que nous vivons une transition anthropologique de majeure. C'est-à-dire ce qu'on appelle la transition, trop souvent, ça c'est limité à la transition énergétique climatique. Et pour moi, la question climatique, elle est pas anecdotique, mais elle n'est qu'un morceau de la transition. Et donc, pour ce faire, je suis partie des grandes aires anthropologiques qui avaient été esquissées par Fernand Braudel. Pour vous montrer, enfin, pour essayer de montrer dans quel type de transition on se trouve. Nous sommes dans une transition où notre façon d'être au monde, c'est-à-dire notre relation à l'espace et au temps, c'est-à-dire au monde terrestre, est en train d'évoluer, et donc notre relation à nous-mêmes, notre corps, qu'est-ce qu'on fait là, le sens de la vie, et bien sûr notre relation aux autres. Alors, dans l'histoire de l'humanité, on a connu trois grands types anthropologiques. L'ère sauvage, le temps des chasseurs-cueilleurs, voilà, le monde est un terrain de chasse. On vit de prédation sur un environnement, on peut dire d'un point de vue corporel, on est plutôt dans des réponses instinctives sans passer par le mental. Et puis, on est plutôt dans l'ère de la grande mère, la vie semblant naître du sexe des femmes. Ensuite, donc, la première grande révolution technique qui nous fait basculer d'un point de vue anthropologique dans autre chose, c'est la révolution néolithique, c'est-à-dire la révolution agricole. C'est l'invention de l'agriculture. Bon, je ne refais pas toute l'histoire parce que sinon, on va dormir là. Et donc, là, on entre dans l'ère paysanne, c'est-à-dire que le fondement des sociétés, c'est la production de nourriture, le commerce des produits agricoles pour l'essentiel. C'est une société, c'est la société, on va dire d'un point de vue sexuel, parce qu'il n'y a pas de grande révolution anthropologique sans révolution sexuelle. Là, on est dans l'ère du père, c'est le patriarcat physique incarné. Donc voilà. Donc on pourrait dire que c'est l'ère de la localité. Donc, il y a un primat spatial, hein, le poids de l'espace est très fort. C'est l'ère des communautés. Communautés, il y a deux niveaux de communautés, hein, les communautés familiales, le lignage, etc., et les communautés villageoises. Et ce sont des sociétés dont le lien social est fondé sur des relations de réciprocité, c'est-à-dire ce qui est donné aujourd'hui sera rendu en temps et en heure. Bon, l'ère paysanne, on pourrait développer, mais vous voyez à peu près les cultures paysannes. Ces cultures paysannes, en fait, cette grande ère anthropologique, elle a pris fin avec la révolution industrielle, c'est-à-dire la maîtrise mécanique du feu, de l'énergie du feu avec le moteur. Donc moi j'appelle ça l'ère de la modernité, on pourrait dire aussi l'ère thermo-industrielle, l'ère du capitalisme, l'ère des villes, l'ère urbaine. C'est aussi la naissance de l'anthropocène, ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, que moi je n'utilise pas, c'est un terme géologique qui a tendance à nier les dimensions sociales, et je trouve que c'est un terme géologique qu'il faut laisser aux géologues. Donc c'est l'ère de la modernité, c'est notre culture qui s'installe, on peut dire que là on est dans l'ère de la mobilité, on a un primat spatial, hein, l'espace, la puissance de l'espace paraît amoindrie, donc on est dans l'ère de la mobilité des individus, des marchandises, des idées. C'est l'ère de l'individualité, hein, donc on va sortir, l'individu va s'extraire des communautés villageoises et familiales. Et c'est aussi l'ère de la marchandisation comme base de la relation sociale. C'est l'ère de, on va dire là, le monde est une usine. Hein, pour nos ancêtres paysans, le monde, on va dire, est aménagé dans une logique de potager, durabilité, fertilité. L'ère moderne, c'est vraiment l'ère, le monde est aménagé comme une usine, l'ère de l'efficacité économique, de la rationalité économique. Il y a eu une transition entre l'ère paysanne et l'ère de la modernité qui s'est traduite par un effondrement de toutes les cultures paysannes et la disparition des paysans, remplacée par quelques agriculteurs. Donc ça, c'est notre culture actuelle, et notre culture actuelle est en train de subir une révolution, la révolution numérique. L'émergence du numérique qui va faire basculer complètement notre relation à l'espace et au temps, puisque les idées font le tour de la planète dans l'instant. Et donc, on peut dire qu'il y a une espèce de rétraction spatio-temporelle considérable. Et donc, cette révolution numérique, elle nous fait basculer dans une autre culture. Et on voit que ça fait gripper la culture moderne, et ça nous fait basculer dans quelque chose de nouveau que moi j'appelle l'ère de la noosphère, mais c'est moi qui l'appelle comme ça. C'est un hommage à Pierre Teilhard des Chardins qui avait conceptualisé l'ère de la pensée humaine connectée, qu'il avait appelée la noosphère. Donc c'est cette ère de la noosphère qui nous faut imaginer pour envisager l'avenir. Donc, vous l'avez compris, l'ère paysanne, elle a créé la nature anthropisée, c'est-à-dire la campagne, et l'ère de la modernité, c'est plutôt l'époque de la ville, mais vous le savez déjà. Alors, partant de là, aujourd'hui, on voit qu'il y a, il n'y a pas un récit, il n'y a pas un futur lisible. Nous avançons vers l'inconnu, nous allons vers une nouvelle ère, une nouvelle culture qui n'est pas une nouvelle civilisation, une nouvelle relation au monde, etc., qui n'est pas clairement définie. Nous sommes dans une transition, mais nous allons d'un point A à un point B, mais le point B nous est pour le moment inconnu. On peut dire aujourd'hui, de façon un peu synthétique, qu'il y a deux projets de futur qui ne sont pas conciliables. Il y a un premier projet de futur qui est, eh bien, la modernité, j'ai essayé de faire un schéma là, la modernité, elle avance depuis la fin du 18e siècle, 19e, depuis le 19e siècle, elle avance en faisant table rase du passé, hein, et elle a une tendance au refoulement du passé. Et donc, elle a inventé des caricatures du passé, donc les sauvages, les ploucs, les gilets jaunes. Donc, toutes les phases précédentes de la phase actuelle sont caricaturées. Donc, elle fait table rase du passé, on invente du nouveau. Et donc, là, on continue, on va dire, les tenants du pouvoir actuel de l'ère de la modernité. Finalement, on continue comme ça avec le numérique. Et donc là, on va vers un projet hyper connecté, on va dire, avec au fond l'implantation dans l'humain de cette connexion numérique avec des mégalopoles ultra connectées. Enfin, donc, c'est le monde des cyborgs, de la surveillance générale, du tout numérique, etc. Donc, on voit bien que ce projet, même s'il avance, hein, il est assez dystopique. Il a du mal à fédérer la majorité de la population qui y voit, comme je le disais, plutôt un futur dystopique. Mais c'est le projet des tenants du pouvoir de l'ère de la modernité, des pouvoirs de l'ère de la modernité. Et puis, en parallèle, mais de façon contradictoire, on voit se développer un autre projet, une demande d'un autre futur plus désirable collectivement. Ce projet d'un futur plus désirable collectivement n'est pas unifié. Il avance, il se construit par des convergences, que je reviendrai là-dessus, qui sont pour moi des convergences des mémoires. Donc, il y a les mouvements écologiques, les résistances paysannes en particulier, on l'a vu par exemple sur l'année 2020 en Inde, mais ailleurs aussi dans le monde, il y en a aussi en France, mais en Inde c'était incroyable. Et depuis les années 90 en Amérique du Sud et depuis la crise de 2008 en Occident, des luttes altermondialistes. Et donc ces convergences vont vers un mouvement qui s'appelle en général, quand il est posé positivement, les bohèmes. Depuis la Beat Generation, on va dire ça comme ça, c'est un mouvement altermoderne. Alors, à pas confondre avec les bobos, on reviendra un peu là-dessus aussi. D'accord? Donc, moi, ma participation, elle est clairement dans ce projet altermoderne. C'est une réflexion altermoderne et c'est là que je pense que se trouve l'opportunité pour les espaces ruraux. Alors, avancer vers l'inconnu, qu'est-ce qu'on fait pour avancer vers l'inconnu? Alors, avancer vers l'inconnu, alors déjà, on peut essayer de comprendre un peu la tempête dans laquelle nous sommes. Alors, j'ai essayé un petit peu de résumer de façon synthétique les tempêtes dans lesquelles nous sommes. Donc, vous avez sur la partie gauche l'ère de la modernité, c'est-à-dire notre culture avec les signes de l'effondrement qui sont engagés. Personnellement, je pense que l'effondrement est engagé. Alors, il y a deux types d'effondrement. Il y a les excès de l'accumulation capitaliste, c'est-à-dire, on va dire, l'hubris complètement libéré, donc qui entraîne une crise écologique, une compétition pour l'accès à la ressource à toutes les échelles, de l'échelle planétaire jusqu'à l'échelle des individus, et la marchandisation de toute relation humaine. Donc ça, ce sont des échecs. Et puis en dessous, il y a l'effondrement sous l'effet de la révolution numérique. Donc les effets, on va dire, de l'automatisation de la production, l'inadaptation des biens immatériels à la logique marchande de l'ère de la modernité qui est fondée sur la logique des biens matériels, l'inadaptation des organisations hiérarchiques et la question du pouvoir numérique et du risque démocratique. Ça, il y a un récent rapport du Sénat tout à fait préoccupant sur cette dimension-là. Et donc, moi, en miroir, j'ai mis en face qu'est-ce qu'il faudrait pour résoudre ces problèmes qui sont majeurs et qui sont globaux. Vous voyez que, pour moi, le réchauffement climatique, il n'est que dans le A. Hein. Donc, j'ai mis A prime, bon, ça veut dire réfléchir à notre relation à la nature. En B, B prime, ben, la justice sociale. C'est la réhumanisation des rapports sociaux. D, quelle est la place du travail dans la société et comment est-ce qu'on est rémunéré. E, les communs. F, l'organisation horizontale et collaborative. Et G prime, l'Internet. Bon, donc ça, c'est un peu la tempête. J'ai essayé de... Voilà. Donc, nous avançons dans une tempête où l'avenir est inconnu. On peut dire, voilà, soit on va vers la violence, soit on va vers une société très violente, soit on essaie de régler tous ces déséquilibres. Mais en fait, donc, nous sommes dans la tempête. Et comment avançons-nous dans une tempête en allant vers quelque chose qui nous est inconnu? Eh bien, dans ces cas-là, la seule solution que l'on a, moi, je dis toujours aux étudiants, quand vous devez répondre à une question dont la réponse est inconnue, il n'y a que deux choses à faire. C'est un, avoir un bagage de connaissances maximales, c'est-à-dire connaître tous les possibles humains pour avoir une richesse intérieure et avoir un champ des possibles très, très large. Et deuxièmement, avoir des bonnes méthodes de réflexion, d'analyse. Donc, en fait, on s'appuie sur le passé, on s'appuie sur nos acquis, on s'appuie sur nos valeurs, on s'appuie sur ce que l'on est, ce qu'on a appris et tout ça. Et donc, pour aller vers l'inconnu, on observe aujourd'hui une résurgence des mémoires, de toutes les mémoires, en dehors de la culture moderne. Et en particulier, donc, des mémoires paysannes. Alors, à quoi servent les mémoires ? Il n'y a pas de nostalgie dans mon propos. En fait, je dirais que nous sommes en train de vivre collectivement ce que déjà individuellement beaucoup d'entre nous ont vécu. C'est-à-dire qu'on est dans un travail de thérapie, on pourrait dire, enfin, au niveau individuel. C'est-à-dire, nous avons tout réussi matériellement et pourtant aujourd'hui, il y a un gros problème, on ne sait plus où on est. Et pour avancer vers ce futur inconnu, nous devons savoir qui on est, quels sont nos acquis, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus, nos valeurs, etc. Et c'est ça, en fait, la résurgence des mémoires, c'est au fond stabiliser ces acquis, faire que ces acquis servent d'une base stable pour envisager le futur. Les mémoires n'ont pas pour but de dessiner le futur. Le futur, il est notre choix. D'accord ? Donc, ce n'est pas le passé qui conditionne le futur. Mais le passé, les mémoires vont nous permettre de nous stabiliser dans ce contexte de grand chambardement, dans ce contexte d'effondrement. Les mémoires ont pour but de nous stabiliser de façon à envisager, à choisir un futur. Et donc, on observe des résurgences des mémoires partout, de toutes les cultures. Donc, voilà. Donc, on a une revalorisation contemporaine des mémoires. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça change. Voilà. Et donc, par exemple, alors, ça dépend des sociétés. Dans les sociétés d'Amérique, où les chasseurs-cueilleurs sont beaucoup plus prégnants, la mémoire, elle est beaucoup plus proche, puisqu'on avait les populations natives indiennes, par exemple, on a des mouvements de résurgence des mémoires à partir des chasseurs-cueilleurs. C'est très agaçant, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, pardon. Donc, on peut revaloriser de façon contemporaine les mémoires. Dans les sociétés paysannes, on va avoir les mémoires paysannes. Qu'est-ce qu'on a ? Par exemple, les sociétés paysannes ont su s'adapter à toutes les niches écologiques. On a fait de l'agriculture partout où c'était possible d'en faire. Les sociétés paysannes ont une pratique des usages collectifs. C'est une économie du recyclage, du partage, etc. Donc, on peut revaloriser les mémoires. Et puis, j'ai mis là-dedans les mémoires de la modernité des Lumières, hein, puisqu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, encore une fois. Il n'y a pas de nostalgie dans mon propos. Les héritages, les apports de la modernité sont grandioses. D'ailleurs, les Trente Glorieuses, d'un point de vue social, les apports de la modernité sont grandioses. Hein, l'égalité, l'individualisation n'est pas négative. Le confort, la justice sociale, l'éducation pour tous, la connaissance scientifique accessible pour tous, la mobilité sont des apports considérables. Et donc, vous comprenez, vous commencez à voir quels peuvent être, quel est l'intérêt de la campagne dans cette revalorisation contemporaine des mémoires de façon à stabiliser le corps social pour traverser l'effondrement qui est devant nous. Et donc, les campagnes, pour moi, ont un rôle important à jouer dans l'invention du futur. Alors, s'il fallait encore insister, je dirais les choses un peu différemment sous un autre angle. On pourrait dire que la culture moderne, elle est en crise. Et c'est Einstein, je pense, qui dit ça. On ne peut pas résoudre un problème avec le niveau de conscience qui a créé ce problème. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui est en crise, la culture moderne ? Quel est son épicentre ? On peut dire que, on le sait, bon, l'ère de la modernité, son origine anthropologique, sociale, culturelle, elle se trouve au cœur des bourgeoisies marchandes de l'Europe de la Renaissance. C'est là où on va voir les premiers signes d'une culture moderne, différente de la culture paysanne, de l'ère paysanne, où il y avait l'aristocratie et les paysans. Il y avait un petit groupe très marginal de cette ère paysanne, les marchands. Et les marchands ont construit une autre façon de voir le monde qui s'est ensuite complètement étendue à l'ensemble de la société avec la révolution industrielle. Donc l'épicentre de la culture moderne, c'est le mental, la raison logique, le cerveau logique, l'hémisphère logique des hommes, des classes bourgeoises, des grandes villes, de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe et de ses descendants. Et donc, où se trouvent les altérités, où se trouvent les marges, où il peut y avoir autre chose, eh bien, ces marges, on va dire, ben, je les ai mises en face. Hein. Donc, c'est l'imaginaire. Donc, on va dire l'hémisphère créatif. C'est le féminin. Je dirais pas les femmes, le féminin, on va dire, chacun ayant les deux polarités. Donc là, on va dire, c'est les qu'est-ce qui fouille ça? Ce sont les études de genre aujourd'hui qui fouillent ça, qui réfléchissent à ça. Les classes dominées, alors là, ce sont les études radicales. L'opposé, on va dire, la dualité opposée de la grande ville, c'est les campagnes dans l'Europe et on va dire toute l'Eurasie. Ça peut être la nature sauvage, par exemple en Amérique du Nord, ça, par exemple en Australie, ou choses comme ça. Et le monde non occidental. Ça, ce sont les études post-coloniales. Pour l'étude des campagnes, il y a un mouvement qui s'appelle les études territorialistes italiens qui ont lancé il y a une dizaine d'années une réflexion. Et donc, vous voyez que, en fait, les campagnes font partie de ces altérités. Hein, ce sont des marges, on va dire, les marges de la culture moderne, ceux qui ont été marginalisés par la culture moderne, qui ont des apports. Et c'est là que se trouvent tous les mouvements de fierté, c'est-à-dire les mouvements des prides. Les mouvements de pride, ce sont des mouvements d'empowerment, c'est-à-dire des mouvements de reprise d'affirmation. Les mouvements des fiertés, les prides, n'ont pas pour but de se séparer du monde. Au contraire, ces mouvements de pride, ils ont pour but de c'est une revendication à un apport contemporain de ce qu'ils sont pour inventer le nouveau monde. Et donc, les prides, ce sont des populations qui étaient donc plutôt marginalisées, dévalorisées par l'épicentre de la culture moderne. Ce sont des mouvements, en fait, les mouvements de pride, c'est des mouvements de resignification subversive. C'est pour ça que j'ai appelé le bouquin Plouc Pride. C'est une resignification subversive. C'est un peu comme le mot nègre qui ne peut plus être utilisé si vous n'êtes pas vous-même noir, parce que c'est considéré comme une insulte, sauf si on en fait une resignification subversive, c'est-à-dire je me réapproprie l'insulte et j'en fais une fierté. Donc, plouc pride, c'est l'idée qu'on est guéri de la blessure. J'arrive à dire je suis un plouc ou descendant de plouc ou fils de plouc, que si je suis guéri du sentiment d'infériorité culturelle et sociale qui est associée à ça. Donc, c'est ça que j'ai voulu partager avec les espaces ruraux. Alors, vous voyez, c'est un peu conceptuel, je vous partage un peu avec vous ce soir, mais j'espère que ça ne vous a pas complètement perdu. C'est un peu conceptuel, mais c'est ça que je trouve intéressant, en fait, moi, pour moi, en fait, c'est en faisant des conférences que j'ai eu envie d'écrire pour les ruraux, et c'est aussi avec mes lectures que ça m'a permis de donner du sens au changement, et c'est ce partage que j'ai voulu faire, cette vulgarisation, cette diffusion démocratique du savoir pour donner du sens au changement et d'expliquer aux campagnes qu'elles ont un rôle fondamental à jouer dans l'invention du nouveau monde, d'un monde altermoderne, c'est-à-dire un projet de futur qui sort vraiment de l'ère de la modernité, et on invente la société de demain. On n'essaie pas de continuer notre société actuelle de façon intenable dans la révolution numérique. Alors, inventer concrètement, qu'est-ce que... Je vais juste faire quelques... tendre quelques fils, peut-être un peu plus opérationnels, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que moi, j'en ai ressorti ? Eh bien, en fait, pour c'est quoi la campagne de demain, vers où on va ? Alors, on va vers, moi, ce que j'appelle la troisième ruralité, les ruralités bohèmes. La première ruralité, c'est... impossible. Les premières ruralités, ben, c'était les ruralités paysannes. D'accord ? Bon, ben, ça, tout le monde voit de quoi je parle. Les ruralités paysannes traditionnelles qui ont existé en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale environ. Donc là, on avait les sociétés paysannes, et puis il y avait une diversité des espaces ruraux en France qui s'organisaient à partir de là. C'était un, les écosystèmes, hein, et puis deux, les systèmes familiaux de Emmanuel Todd. Et là, on avait différents pays avec des ruralités différentes selon qu'on était plutôt en Bretagne ou dans le pays occitan, etc. Les ruralités paysannes. Ces ruralités paysannes, elles ont disparu. Elles ont été acculturées par la modernité en un siècle, entre 1850 et 1960. Ensuite, les campagnes sont rentrées dans l'ère de la modernité. Et là, dans l'ère de la modernité, les campagnes, elles ont eu plus de difficultés à trouver leur place, puisque l'ère de la modernité, c'est l'ère plutôt de la ville. Alors, il y a deux phases dans cette ruralité moderne. Il y a la phase, je dirais, des 30 Glorieuses, où là, on est dans les campagnes productives modernes. Donc, l'idée, c'est d'apporter, par exemple, c'est de moderniser la production, donc l'agriculture, mais aussi, c'est toute la diffusion de l'industrie de main-d'œuvre dans les espaces ruraux. Et donc là, il y a vraiment des politiques de l'État et, on va dire, un capitalisme national industriel qui va rechercher cette main-d'œuvre de la campagne. Et donc, on va avoir un certain nombre de campagnes qui vont passer au stade moderne productif. Et on va trouver que ça, c'est bien. Et ça va s'opposer aux campagnes qui restent un peu dans un jus paysan qu'on trouve complètement archaïque. Ensuite, on va dire 1975-1990, c'est la phase de périurbanisation. Donc là, la campagne va se moderniser, mais sur une base résidentielle. Et donc, dans cette période-là, on va dire les campagnes périurbaines se développent. Et puis, il y a les campagnes isolées qui sont considérées comme... plus négativement. Il y a un tournant dans les années 2000, c'est le début de la révolution numérique, et là, on va avoir les premiers signes d'un basculement des imaginaires. C'est-à-dire que progressivement, on va passer de l'idée que la modernité, c'est super, à l'idée que la culture, on va rechercher comme un paysage plus paysan, un jus un peu plus paysan. Donc ça, c'est la campagne Les Paradis Verts. On va voir apparaître à la fin des années 90, début des années 2000, des gens qui vont rechercher du résidentiel, mais pas du tout périurbain, du résidentiel rural. C'est les Anglais, les Néerlandais, qui vont lancer le bal du retour à la campagne. Et donc, on va commencer à avoir un imaginaire qui évolue et qui est un peu celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire la campagne, qu'est-ce qui est positif? C'est les campagnes qui sont restées des paradis verts. Et on va commencer à trouver que c'est moche, les campagnes qui ont été transformées par la modernité, que ce soit la modernité productive ou la modernité périurbaine. On va continuer dans cette logique-là et on va vers un idéal de la campagne altermoderne, donc ce récit d'un nouveau monde qui est à construire, qui se construit par la convergence des mémoires, etc., qui s'opposera au vieux monde de la modernité. Donc voilà ce qu'il nous faut inventer, qu'est-ce que c'est que ces campagnes du futur, altermoderne, qui sont, alors, pour la jeunesse, quel est le groupe social qui peut, d'après moi, nous permettre de faire la transition. Alors, le passage de l'ère paysanne à l'ère de la modernité, il a été mené par la JAC, la JAC, la Jeunesse Agricole Catholique, c'était un mouvement agricole. Ce sont des gens qui étaient des biculturels, c'est-à-dire ils étaient à la fois du monde paysan, mais acquis aux idées de la modernité. La JAC. Aujourd'hui, dans cette transition entre la modernité et l'ère de la noosphère, qui sont les biculturels? Alors moi, je les appelle les beaux pros. Alors, beaux pros, c'est moi qui ai dit ça comme ça, mais c'est une idée que j'ai lue Gary Snyder, qui est un Américain de la Beat Generation, qui a écrit dès les années 60, il parlait des bohémiens prolétaires, des prolétaires bohémiens ou des bohémiens prolétaires. Donc moi, je les ai appelés les beaux pros, pour faire le miroir avec les bobos. Les bobos, c'est les bourgeois bohèmes. Donc, ce sont des classes bourgeoises qui sont acquises à l'idée d'une transition écologique. Mais ils ne sont pas acquis à l'idée d'une transition sociale. Donc là, les bohèmes prolétaires, ce sont des gens qui sont acquis à l'idée d'une transition écologique et sociale. Ce sont des classes populaires éduquées. Ce sont des jeunes qui se rendent bien compte que l'ascenseur social est en panne. Ce sont les jeunes que décrit Emmanuel Todd dans son dernier ouvrage de cette année, La lutte des classes au XXIe siècle, où il dit qu'il va y avoir un réarmement intellectuel des classes populaires puisqu'il n'y a plus d'ascenseur social. Et donc, on a dans les classes moyennes et populaires, qui habitent majoritairement les espaces ruraux, une jeunesse éduquée qui n'a plus d'ascenseur social. Ce sont des gens, les beaux pros, ce sont des gens qui sont opposés au néolibéralisme et qui ont déjà lâché l'American Way of Life, dit Gary Snyder, mais grosso modo cet idéal de la modernité et qui commencent à inventer autre chose. Alors, ce terme, c'est marrant parce que dans les conférences, je me suis rendu compte que ça plaisait beaucoup à des trentenaires. C'est-à-dire qu'on les traite de bobos, mais eux, ils ne se sentent pas bobos. Et quand j'aurais dit, mais je pense que vous êtes plutôt des beaux pros, ils me disent, oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Donc, comment, en fait, vous voyez, il va falloir intégrer trois couches de ruraux. Il y a les ruraux qui sont les héritiers de la culture paysanne, qui sont dans une logique de localité, communauté, etc., qui fonctionne encore un peu toujours sur ces codes sociaux. Il y a des ruraux modernes. Et puis, il va y avoir il y a ce groupe émergent, les beaux pros, qui sont les porteurs de la transition. Ça, c'est la première idée. Et enfin, comment partir, sur quoi s'appuyer? Donc, moi, personnellement, pour réfléchir à ces campagnes altermodernes, je suis partie sur l'actualisation de la théorie des besoins humains fondamentaux. Vous connaissez la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow a été actualisée en 2010 avec la théorie de l'évolution par 4 psychologues. Et donc, il n'y a plus cinq échelons, mais il y en a 7 et ces besoins sont concomitants. C'est-à-dire que Maslow dit que c'est pyramidal. Pour ressentir le besoin supérieur, il faut accéder au premier. C'est pas ça. Donc, c'est 7 besoins humains fondamentaux. C'est la survie. Donc, pouvoir dormir, boire, se reposer, se protéger de la maladie. Voilà. Deuxièmement, c'est l'affiliation pour se protéger des violences physiques, sociales, psychologiques. Ensuite, on a un besoin de... Alors, attendez, je vais quand même regarder avant de vous dire des bêtises. Donc, un, la survie. Deux, la protection. Trois, l'appartenance à un groupe, éviter l'isolement. Quatre, l'estime, le statut, c'est-à-dire se sentir unique. Cinq, la rencontre, et en particulier la rencontre d'un partenaire, mais la rencontre. Six, la continuité pour éviter la perte. La perte de statut, la perte des gens qu'on aime, la perte de nos avantages. Et puis, le dernier, donc la postérité, repousser la mort inéluctable. Donc, à partir de ça, j'ai défini quatre axes de réflexion pour un aménagement des campagnes de demain pour envisager un droit au village. C'est-à-dire, le droit à la ville, c'est un concept de la modernité, 1968, Lefebvre. C'est le plein accès à la modernité pour les classes populaires. Aujourd'hui, on parle dans le monde universitaire d'un droit au village. Alors, le droit au village, là aussi, vous voyez, c'est une résurgence des mémoires. On s'appuie sur quelque chose de connu pour avancer vers un inconnu. Je ne pense pas qu'on veut un retour au village du 19e siècle, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'idée du passage du droit à la ville au droit au village, vous voyez déjà qu'il y a une question d'échelle. Donc, ça doit nous interroger sur les échelles du bien-être collectif. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, les gens attendent une vie plus douce, alors que dans les années 50, on attendait une vie plus trépidante, plus, avec une ascension sociale, plus matérielle. Je vais très rapidement conclure ce droit au village avec la théorie des besoins humains fondamentaux. Donc, la protection des corps, en quoi les campagnes peuvent permettre aux corps de se protéger. Alors, on n'est pas tellement... Alors, la quantité, c'est important, mais c'est la qualité. C'est-à-dire l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce que l'on mange, éventuellement les ondes électromagnétiques, les pollutions atmosphériques, protéger les corps. On ne parle jamais trop collectivement de l'effondrement social qui est en cours avec une explosion de la précarité. Protéger les corps de la violence sociale. Je pense que les campagnes peuvent, enfin certaines accueillent hein, des gens qui cherchent la misère moins pénible au vert. Donc, protéger les corps. Moi, je pense que dans l'aménagement, il faut ajouter une réflexion sur la protection des corps. Permettre au cerveau d'atterrir. La révolution numérique produit un égarement. Dans l'espace et dans le temps. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais il y a une espèce de rétraction de l'espace. On a tout se ressemble et il y a une confusion dans le temps. Et donc, le problème, c'est que notre identité, le fait que j'existe, c'est bien parce que je suis incarnée dans un espace-temps. C'est ça qui crée mon identité, qui construit mon identité, la relation de l'espace et du temps. S'il y a une rétraction de l'espace-temps, il y a un égarement mental. On est dans une société de zombies, de gens qui vivent dans une vie machinale. On a, bon, je ne vous parle pas de l'épidémie générale de burn-out. Donc, permettre au corps d'atterrir, comment les campagnes peuvent aider, permettre de s'ancrer dans le temps, dans l'espace, de façon à revenir à une bonne santé mentale. Permettre au cœur de se relier, c'est la question de la relation. Chaque être humain a besoin de se sentir unique et reconnu. Mais pour se sentir unique et reconnu, encore faut-il avoir une communauté qui vous reconnaisse. Et donc, dans une société globale où tous les êtres sont interchangeables, dans une société de la jetabilité, que ce soit dans l'entreprise ou dans le couple, ce besoin d'unicité, il est complètement insatisfait. Et donc, il y a, je pense, à l'avenir, comment les campagnes peuvent favoriser la question de la relation. Relation à soi, relation aux autres, relation à la nature. Hein, est-ce que l'espace public n'est qu'un espace de la mobilité des voitures, par exemple? À quoi sert l'espace public? Et le dernier aspect, c'est permettre aux esprits de s'élever. Il y a dans notre société un besoin de postérité, un besoin d'immortalité qui a disparu. C'est là que se trouve une quête de sens à nos existences. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une grande partie des gens qui partent à la campagne pour s'inventer une nouvelle vie et redonner un sens à leur existence. Et donc, si collectivement, il n'y a pas le souci d'une participation humaine, même petite, même oui, très petite et modeste, à une sorte de postérité collective. Ça peut être planter des arbres pour les générations futures, ça peut être permettre une reconnaissance d'une créativité habitante particulière. Eh bien, je pense que les campagnes vont passer à côté des besoins fondamentaux qui demandent à être satisfaits de nouveau et qui sont complètement insatisfaits dans la société hyper moderne dans laquelle on se trouve. Bon, voilà mon propos. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, que ça vous aura intéressé. Je peux répondre maintenant à tout un tas de questions si vous en avez. Et j'espère en tout cas ça aura éveillé un peu votre intérêt sur ce travail.
Merci Valérie, merci infiniment pour cet exposé qui m'a passionné comme à chaque fois. Mais je ne suis pas le seul autour de cette table, et peut-être qu'autour de cette table, certains de nos amis ont des questions à vous poser ou peut-être même des visions à vous opposer. Donc c'est le moment, la parole est libre, elle circule, à vous de la prendre. Ça a inspiré Jean-Marc, puisque cet exposé l'a fait se ressouvenir de l'interview de Edgar Morin. Voilà, donc on est aussi dans ces dimensions. Non, vous avez donc vous adhérez à 100%.
Bon, je veux bien parler un petit peu quand même pour animer. Oui, superbe, superbe présentation, vraiment, chapeau bas. C'est vraiment très, très intéressant sur la façon de voir. Je ne vais pas faire une question, je vais faire un rapprochement au niveau de ma communauté de communes. Actuellement, on est en train d'essayer de faire un mélange, en fait, où on a décidé de mélanger culture et agriculture. Et en fait, on a créé des expositions culturelles et des événements culturels qui sont dans des fermes, où on associe en fait les événements culturels à la visite d'une ferme. C'est-à-dire que les gens peuvent venir pour voir ou de la musique ou des arts picturaux, mais on en profite en plus, surtout au niveau des enfants, pour faire découvrir en fait les métiers de la ferme qui ont été un petit peu oubliés. Et dans ce cadre-là, on a actuellement une opération donc, qui s'appelle les microfolies, qui sont en fait des accès à des banques de musées où en fait, via des tablettes numériques, on a des mini-expositions où les gens peuvent devenir interactifs avec des œuvres d'art. Donc, en fait, l'idée, c'est nos gens, entre guillemets, et sous toute réserve, avec tous les gants de la campagne qui ne vont pas forcément au musée, on leur amène le musée à eux. Et donc, c'est une démarche qui est relativement intéressante. Et pour rejoindre votre propos, l'autre fois, on avait une conférencière qui a fait quelque chose que j'ai trouvé, moi, mais hyper intéressant parce que je n'y avais jamais pensé. Elle a fait, en fait, justement, pour faire le lien entre les deux, une présentation rapide de la représentation de la ruralité et de la paysannerie dans la peinture. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que jusqu'à une certaine époque, les représentations qu'il y avait de la campagne dans la peinture, c'était simplement limité au paysage. En fait, on ne voyait jamais les gens qui travaillaient, on voyait pas les ouvriers agricoles. C'était très rare. C'est-à-dire qu'éventuellement, on les voyait parce qu'il y avait une scène de fête de village ou ce genre de choses. Mais en fait, il n'y avait pas une démarche. Il a fallu attendre en fait le 19e pour qu'à travers les glaneuses ou ce genre de tableau, on voit on va dire des actifs de la terre représentés. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est qu'à un moment donné, et cette notion-là, je l'ai découverte l'autre jour, et ce qui est absolument génial, c'est que souvent dans les arts, que ce soit en musique ou en peinture, on se rend compte qu'il y a des bouleversements qui sont annoncés par les arts eux-mêmes qui anticipent en fait l'évolution de la société. Et en fait, là, par exemple, elle nous a montré qu'à un moment donné, on est passé de la paysannerie à l'agriculture. Et c'est hyper intéressant comme notion, c'est-à-dire que nous, actuellement, on pense agricole, et finalement, quand on pense le cerf du Moyen-Âge, on le voit agricole. Il n'était pas agriculteur, il était paysan, avant tout. L'agriculture, en fait, c'est une forme d'industrialisation qui a eu après de la ruralité, qui s'est développée avec toutes les conséquences que ça peut avoir. D'ailleurs, quand vous disiez à très juste titre tout à l'heure que d'une région à l'autre, ça évolue. Je veux dire, pourquoi, par exemple, moi, je reprends ma casquette maintenant d'élu local, pourquoi est-ce que les communautés de communes étaient précurseuses en Bretagne? Pourquoi? Parce que ça a été les premières coopératives, parce qu'ils ont acheté une moissonneuse batteuse pour 3 villages et qu'ils ont appris à travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas de l'Île-de-France où on est les derniers à faire nos intercommunalités. Et il y a une analyse effectivement sociétale, mais qui est hyper intéressante à faire à ce niveau-là. Et je vous remercie d'un certain nombre de notions que vous avez données. Et c'est vrai que nous, en plus, ici, je parle, effectivement, il y en a certains qui me connaissent ici qui le savent, je parle effectivement en plus d'une ruralité qui est complètement différente, c'est que je suis d'une ruralité qui est dans la plus grosse métropole de France. Donc en fait, bon, on est à 50 km à vol d'oiseau de Paris, c'est forcément pas la même chose qu'au fin fond du Gers ou dans le Finistère, mais voilà, et tout le phénomène que vous avez décrit, effectivement, nous on le suit, et d'ailleurs c'est en plus exacerbé suite à la crise de la Covid qu'on vient d'avoir, parce qu'on a effectivement une pression foncière énorme d'urbains qui se renseignent actuellement pour pouvoir éventuellement venir se mettre à la campagne. Et je ne sais pas si c'est ici que je disais ça l'autre jour, ce qui est très curieux maintenant en tant que maire d'une petite commune, avant, quand les gens appelaient la commune pour prendre des renseignements sur la commune, les 2 premières questions c'était: est-ce qu'il y a une cantine à l'école? Est-ce qu'il y a un centre aéré? Maintenant la première question c'est: est-ce que vous avez la fibre? Et voilà, donc voilà, on a changé, on a atteint une nouvelle façon de voir les choses, mais qui je pense peut être un atout pour nos territoires, parce qu'on a un certain nombre de choses à valoriser. Le seul inconvénient, c'est, on va dire, le côté un petit peu consumériste d'un certain nombre de nos concitoyens actuellement, qui en fait, voilà, ils veulent venir ici avec tous les avantages, n'en avoir aucun inconvénient, et voilà, il y a la fibre, c'est bien, mais s'il y a un coq qui chante, c'est déjà un problème. Voilà. C'est ma petite participation pour ce.
Merci beaucoup, Yannick, merci pour ce témoignage. Qui souhaite réagir, questionner ou témoigner? Je rappelle qu'il y a une concomitance aussi entre ce travail réalisé par Valérie Jousseau et puis l'émergence du hashtag « Je suis un plouc » porté par la MRF. Alors, vous n'étiez pas concerté en amont, parce que vous avez commencé à travailler sur le sujet en 2015, mais on se souvient que effectivement. Alors, je ne me souviens pas complètement de l'acronyme, mais le P, c'était pour proximité, le U, c'était pour utilité. Est-ce que Cédric souhaite nous en dire un peu plus sur l'avenir qui sera réservé à ce hashtag « Je suis un clouc » ?
L'avenir est devant nous, comme d'habitude. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Ouais, j'ai juste pris un petit peu en décalage, donc je n'ai pas tout entendu, mais en tout cas, j'étais très heureux d'écouter cet exposé-là qui vient rafraîchir, qui vient, pour prendre la formule, atterrir nos cerveaux, y compris en fin de première journée de la semaine, où la chaleur en ville est perturbante. Et c'est aussi un des enjeux moi, que j'ai envie de questionner, c'est comment vous appréhendez la question de la transversalité, de l'interterritorialité dans votre approche. On voit aujourd'hui, je ne reviens pas sur les 3 catégories de ruraux, parce que je pense que certains sont hybrides, comme beaucoup d'entre nous, et notamment l'hybridation, elle se fait par la multi-localisation, on est 3 jours urbains, 4 jours ruraux, et des fois ce mode-là, on l'appréhende parce que justement, on a passé une bonne partie de notre vie avant à la campagne, et qu'on sait que c'est quand même plus sympa d'y vivre qu'à d'autres endroits, mais parce qu'on a aussi les capacités pour le faire, on a des racines, on a un ancrage, on a une maison, on a etc. Et donc, on travaille vraiment beaucoup cette question. Le L de Plouc, c'est liberté, mais la question moi, que j'ai envie de poser comme ça pour amorcer aussi, c'est, cette relation-là, un petit peu en tension, au sens où un peu tout le monde se cherche, sur les relations ville-campagne, là, vous l'appréhendez-vous à travers l'habitant, mais nous, par définition, par rapport à la nature de notre structure, on travaille aussi sur la question des collectivités, et on s'aperçoit que c'est quelque chose de relativement d'impensé, à la fois parce que beaucoup d'activités de nos habitants respectifs sont interdépendants, il y a beaucoup de ruraux qui partent le matin, etc. Et l'urbain ne pense absolument pas cette question-là, de la même manière que le rural pense assez peu la venue du touriste, des aménagements en fonction de ça, peut-être plus, je ne sais pas, c'est peut-être un prisme déformant de ma part, mais en tout cas, je sais que, par exemple, pour être impliqué, puisque je suis lyonnais aussi, dans le Conseil de développement du Grand Lyon, de la métropole du Grand Lyon, à aucun moment l'habitant extérieur de Lyon n'est cité dans la manière d'appréhender le développement du territoire. C'est-à-dire que ce soit le touriste, que ce soit le cadre qui va venir de Paris pour dialoguer avec un chef d'entreprise local, ou le pendulaire qui vient de la campagne, entre autres. Et donc, cette question-là, comment est-ce qu'elle se vit? Et deuxième appendice à cette question, dans tous les enjeux, là, vous avez parlé du corps, mais qui renvoie peut-être plus pour nous la question du lien avec la nature et aux espaces plus respirables. Et comment est-ce que dans les enjeux, par exemple, de transition, vous avez parlé là, de cette troisième catégorie, sur cette transition-là, aujourd'hui, comment vous voyez le rôle de la ruralité au regard justement des impasses dans lesquelles le modèle urbain met un certain nombre de nos concitoyens. Vous avez parlé de la question économique, on sait que ça fait très longtemps qu'il y a des migrants contraints qui quittent la ville pour aller à la campagne parce qu'ils ne peuvent plus simplement s'y loger parce qu'ils sont à temps partiel dans une grande surface. Et de l'autre côté, tous les enjeux liés à la pollution, à la question de la transition. La question, si Michel Maillat était là, il poserait la question aujourd'hui, comment est-ce que cette ruralité prend conscience de sa capacité à intervenir comme étant une solution sur la question énergétique? C'est-à-dire qu'on n'aura jamais de métropole autosuffisante, territoire à énergie positive, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de villages qui ont, avant même les accords de Paris, était capable d'être en facteur 4 ou 5 par rapport au... Voilà. Donc, c'est un peu vaste, mais bon, comme Yannick, il faut commencer.
Valérie.
Tu me donnes la parole, Sébastien? Oui. Je ne veux pas trop m'occuper, comme j'ai beaucoup parlé, j'ose pas trop en rajouter, parce que voilà. Donc, moi je... Enfin, après, je n'ai pas une réponse personnelle à tous les problèmes. Moi, je pense que ce à quoi j'encourage les gens, pour moi, aujourd'hui, il y a une espèce de novlangue de l'urbain que je dénonce, et il y a des rapports de domination, incontestablement, mais des rapports de domination même culturelle, on va dire. Il y a une sorte d'infériorité qui est en train de se guérir de la ruralité, mais qui était là quand même et qui traverse un peu tout ça. Moi, je suis simplement pour qu'on puisse dire le rural, il existe au sein de la modernité. Il a des qualités et moi, je l'encourage à développer ses modèles propres. C'est-à-dire qu'on va dire au niveau international, il y a une espèce de catalogue des bonnes pratiques des grandes mégalopoles du monde, d'accord, qui donnent le ton. Donc, on va avoir Los Angeles qui développe ça, et puis après, ça va être imité à Paris, et puis après, ça va être imité à Nantes, et puis ça se décline comme ça. Mais en fait, on a en pratique d'aménagement, on a des espèces de codes de bonnes pratiques qui sont donnés par les grandes mégalopoles du monde. Je pense que ça, dans l'ère de la modernité, pourquoi pas, pour inventer le futur, ça ne va pas. Et donc là, je pense que vraiment, il faut que les espaces ruraux aient justement cette fierté de se ressaisir de leurs problématiques propres et d'essayer de préconiser leurs réponses propres, notamment sur la question de la mobilité, sur la place de la voiture, sur la question de l'énergie. Je pense qu'il n'y a pas une solution qui serait bonne et pour la métropole et pour le petit village. Vous l'avez dit, en termes, par exemple, quelle énergie de chauffage? Bon, ben voilà, c'est pas, la réponse ne peut pas être la même aux deux endroits. La place de la voiture, la réponse ne peut pas être la même aux deux endroits parce qu'il y a un effet spatial. Nous sommes dans une société où, depuis 40 ans, on a une théorie sur au fond, il y aurait il y a une abstraction territoriale. Mais ce n'est pas vrai. L'espace existe et il nous apporte un certain nombre d'atouts ou de contraintes.
Et le ruissellement dans tout ça. En l'occurrence, effectivement, c'est une nouvelle preuve qu'il n'y a pas cette articulation. Qui souhaite à nouveau partager? Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, ça m'a beaucoup changé, effectivement, ce livre, dans le sens où on part de l'humain tel qu'il se perçoit, tel qu'il est perçu, tel qu'il se constitue encore social, à l'inverse de ce que je vois encore des appels d'offres en cascade sur des diagnostics territoriaux pour lutter contre la déprise et créer de l'attractivité.
Alors là, je pense que, bon, après, moi, je suis de la région nantaise, de l'ouest de la France, mais la question de l'attractivité, même les élus de mon coin, là où on est à du 2% par an de croissance, ils veulent être attractifs. Mais c'est le problème, je pense qu'il n'est pas là. L'attractivité de l'espace rural, ça fait depuis 1990 dans le monde universitaire qu'on sait qu'il y a une bascule démographique. Il y a une inversion des mouvements migratoires. Alors évidemment, c'est infime, mais depuis 1990, il n'y a plus aucun, vous entendez, aucun phénomène de concentration territoriale en France. Si l'INSEE trouve encore que les métropoles grossissent plus que les autres, c'est qu'elles ne font que étendre ce qu'elle appelle l'aire urbaine. Comprenez, mais l'aire urbaine, elle occupe les trois quarts de la France. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, il y a une idéologie qui dit qu'un grand pays développé est un pays urbanisé et que ce sont les grandes villes qui tirent la croissance et tout ça. Donc, ça, c'est, on va dire, la théorie passée de l'ère de la modernité. On veut faire croire que ça continue. Donc, il n'est pas question que statistiquement, on observe de la désurbanisation. Vous comprenez ? L'aire urbaine a été définie sur un critère idéologique. Il fallait qu'il y ait plus de 75%, plus de 80% de la population française qui soit dedans pour que la France apparaisse comme un grand pays développé. D'accord ? Donc, on dit qu'il n'y a pas qu'avec des SIC qu'on met Paris en bouteille. Ben moi, je dis qu'avec un bon seuil statistique, on fait dire ce qu'on veut. Et donc, depuis 1990, depuis 68, on a une déconcentration urbaine, mais à tous les niveaux, je veux dire les grandes villes, les villes moyennes, les petites villes, jusque dans les fins fonds de campus. Bon, on peut dire que ça, c'était la périurbanisation. Ok, j'accepte de considérer que c'est une diffusion de l'urbain. Bon, pourquoi pas? Mais depuis 90, même dans les coins les moins denses, il n'y a pas de concentration. Je pense que les espaces ruraux doivent plutôt se préparer à un afflux important de population.
Et préparer nos jeunes, hein, puisqu'effectivement, on est dans ça. C'est peut-être la
que ça concernera.
Il nous reste 2 minutes. C'est peut-être ma dernière question, Valérie. Comment faire en sorte que les jeunes ruraux s'approprient cette compréhension et puis cette fameuse fierté rurale? Eux qui parfois renoncent aux études supérieures parce qu'ils se disent « j'ai pas les codes, je vais passer justement pour un truc ».
Oui, ça c'est un grand problème. Moi, je le vois à l'université, hein. Tous ceux qui habitent dans pas trop loin d'une ville, mais à tous ceux qui sont d'une campagne et qui sont de milieux populaires, bah, se loger par exemple sur Nantes, pour eux, c'est très difficile. Alors, l'avantage du numérique, c'est qu'on pourrait imaginer des formes, vous en avez parlé, de campus numérique. Donc ça, je pense que ça peut être des idées super intéressantes à creuser. Et après, moi, je pense, alors vous allez dire là aussi, est-ce que c'est nostalgique? Je ne sais pas. Je pense qu'on a abandonné des dimensions d'éducation populaire. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure culture et agriculture. Il y a plein de mouvements dans ce sens-là. Et moi, je sais que quand je suis sollicitée par des mouvements qui sont dans l'éducation populaire, je suis toujours favorable. Mais c'est vrai que tout seul, c'est difficile d'aller partout pour transporter son propos. Mais moi, je crois qu'il va falloir revenir à des formes d'éducation populaire. on pourrait dire une militance pour l'éducation des classes populaires. Je pense que c'est nécessaire.
Merci, merci. Ben, je crois que ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment, Valérie, pour cette inspiration qui est, et ce soufflet qui, de mon point de vue, n'est pas près de retomber. Je rappelle qu'on vous retrouvera donc à Ruralitique en vrai, à portée de regard pour une fois et d'oreille, et peut-être même demain, peut-être qu'on pourra serrer la main.
Voilà.
Ce sera formidable et on sera au cœur de la ruralité du Cantal. Voilà, on sera très heureux de
creuser cette question du droit au village et quelles sont les quatre options stratégiques pour les espaces ruraux pour avancer vers demain.
Super, et on vous entendra juste après Bruno Marion, le moine futuriste, qui lui parlera justement du chaos et des théories de l'effondrement et aussi naturellement de leurs pendants positifs qui sont les théories de l'émergence. Et c'est bien quelque part ça que vous nous proposez à travers ce nouveau récit pour les campagnes. C'est effectivement, demain, de toute façon, ne sera pas comme hier. Et il n'y a peut-être aucune raison de le déplorer. Donc, juste à inventer, alors. Comme dirait l'autre marchand de chaussures, just do it. C'est ça. Merci pour tout. Vaste programme, mais on a les bonnes énergies autour de cette table, autour de la table de ruralitique, et on sent que la ruralité, on est passé d'une forme de misérabilisme autour des... ça a été les gilets jaunes, c'était les oubliés de la République, et maintenant c'est l'Eldorado. Alors bon, comme le dit le président de l'Association des maires ruraux de la Haute-Loire, moi, les Stéphanois, ça va 5 minutes. Hein. C'est 20% de ma population, ceux qui ont des résidences secondaires, et c'est 80% de mes emmerdes. Donc ça va être un long chemin, mais l'important c'est de savoir où on va.
Ouais.
Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous retrouverons les gens du Centre régional d'information des jeunes, le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes, afin de regarder l'ensemble des dispositifs vers lesquels vous pourriez orienter les jeunes de vos territoires quand ils se posent des questions autour du numérique, par le numérique, pour leur avenir, pour leur orientation. Voilà, ça sert à ça, les CRIJ et leur structure décentralisée. Donc, on travaillera là-dessus la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, portez-vous bien.